Les nuits de France Culture.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la recherche en sciences n'est pas exempte de buts mythiques, de résultats que l'on poursuit pendant toute une vie, tout en sachant qu'on ne les atteindra sans doute jamais. Il y a en science des théories qui peuvent flotter dans un brouillard épistémologique pendant des siècles, sans que quiconque puisse les confirmer ou les infirmer, faute de moyens expérimentaux adéquats ou simplement de solutions plausibles. En mathématiques, on peut prendre l'exemple du dernier théorème de Fermat. Découvert 5 ans après sa mort, en 1665, dans les marges de l'un de ses livres, on ne trouve pourtant aucune démonstration de sa validité. Commence alors une véritable quête du Graal mathématique, qui dure plus de 350 ans, où des milliers de chercheurs et de chercheuses achoppent sur cette preuve élevée au rang de mythe. Ce n'est qu'en 1995 que le mathématicien britannique Andrew Wiles réussit enfin à démontrer ce théorème centenaire, s'assurant une place de choix dans l'histoire des mathématiques. Dans le domaine de la physique, ce n'est pas seulement des théorèmes que l'on cherche à prouver, mais aussi un état très particulier que l'on cherche à atteindre, le zéro absolu. C'est la température la plus basse possible, fixée à moins 273,15 degrés Celsius. En physique traditionnelle, cet état correspondrait à l'immobilité parfaite des particules. Selon certaines théories quantiques, en revanche, il y aurait des restes d'énergie cinétique, le tout ayant des implications énormes sur notre compréhension des particules atomiques et subatomiques. Réussir à atteindre ce zéro absolu grâce à des techniques complexes et des outils puissants en laboratoire, telle est la quête quasi impossible d'une poignée de physiciens parmi les plus renommés au monde. Mais comme l'expliquent les physiciens Gustave Ribot et Paul Lenné dans ce numéro de La Science en Marche de François Le Lyonnais, atteindre le zéro absolu n'est pas qu'une question de fierté personnelle. Pouvoir observer ce qui se passe dans cet état de potentielle immobilité des particules amènerait des réponses concrètes à d'innombrables questions, confirmant ou falsifiant des centaines de théories. La marche vers le zéro absolu, donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 5 juin 1962 sur France 3 Nationale.
Dans le cadre de l'émission « La science en marche », François Le Lyonnais présente « La marche vers le zéro absolu » avec Gustave Ribot et Paul Lenné.
Le froid offre une exceptionnelle démonstration de l'indispensable liaison de la science et de l'industrie, de sa féconde nécessité, écrit Maurice Bayen, directeur du Palais de la Découverte, dans la préface qu'il a écrite pour le catalogue de l'exposition « Le froid et ses merveilles ». On ne peut mieux résumer l'intérêt de cette belle manifestation que j'invite très vivement tous nos auditeurs parisiens à venir admirer. Mais outre que la science en marche n'est pas consacrée à des reportages d'actualité, pour lesquels il existe de nombreuses et excellentes autres émissions à la radiodiffusion télévision française, il aurait été matériellement impossible de faire le tour d'une question qui est présentée dans cette exposition sous des aspects aussi variés que la physico-chimie fondamentale, la géographie, les applications techniques, industrielles, alimentaires, biologiques, médicales, voire même architecturales du froid. C'est de l'un de ces aspects seulement qu'il sera donc question aujourd'hui dans l'entretien que messieurs Ribot et Lenné ont bien voulu m'accorder. Gustave Ribot est membre de l'Académie des sciences et Paul Lenné est professeur au Conservatoire national des arts et métiers et directeur du laboratoire de physique du froid au Conseil national de la recherche scientifique à Bellevue. Nous allons donc écarter, pour aujourd'hui du moins, quitte à y revenir dans des entretiens ultérieurs, les applications du froid et nous placer, je ne dirais pas au zéro absolu, mais dans son voisinage immédiat. Je viens de parler du zéro absolu. Peut-être conviendrait-il, avant d'entamer cette discussion, de dire de quoi il s'agit. Et d'abord, qu'il s'agit d'un zéro absolu dans l'échelle des températures. Et même, avant d'en tenter une définition, de préciser la notion de température. Tant qu'on reste dans le domaine de l'expérience sensorielle et de la vie physique quotidienne, la température, c'est surtout la conscience d'une sensation. Et par suite, son emploi dans le langage courant n'offre pas de difficultés, il fait chaud, il fait froid, quoique même à ce niveau élémentaire, bien des gens confondent les notions de chaleur et de température. Mais cette question de température devient bien plus ardue et bien plus fine lorsqu'on passe aux sciences physiques. Peut-être peut-on en donner une idée, je ne dirais pas parfaite, du moins plus suffisante pour notre propos, Monsieur Ribaud.
Eh bien, je crois qu'en première approximation, nous pouvons considérer la température comme représentant l'agitation désordonnée des molécules qui, enfermées dans un récipient, viennent heurter les parois et sont la source de la pression au sein du récipient. Cette notion est d'ailleurs extrêmement féconde puisqu'elle conduit au sein de la théorie cinétique des gaz à rattacher la pression et la température et, comme nous le verrons un peu plus loin, à fixer une mesure des températures par la simple mesure de la pression exercée par le gaz dans un récipient. Mais bien entendu, aux très basses températures, cette notion sera insuffisante puisque la quantité de molécules dans le récipient deviendra telle qu'aucune mesure ne sera possible. Peut-être M. Lenné pourrait-il nous donner un avis sur le prolongement de la notion de température aux très basses températures.
La notion de température ne pourrait être rapportée de façon précise à l'énergie cinétique des molécules que dans le cas qui est celui des gaz dits « parfaits », où l'énergie interne de la substance considérée serait constituée exclusivement par cette énergie cinétique. Cette condition est approximativement remplie jusque vers des températures de l'ordre de celles que l'on obtient avec l'azote ou l'oxygène liquide par les gaz le plus difficilement liquéfiables, l'hydrogène et l'hélium. Jusqu'aux températures de cet ordre, on peut donc rapporter la mesure des températures à la mesure de la pression de masse déterminée d'hydrogène et d'hélium dont le volume reste constant. Il ne saurait cependant être question d'étendre ce processus aux températures extrêmement basses, obtenues par la méthode magnétique dont il sera question plus loin. L'extrapolation de la courbe de tension de vapeur du gaz le plus difficilement liquéfiable, l'hélium, montre qu'à des températures de l'ordre du centième de degré absolu, qui sont près de 10 000 fois moins basses que les températures les plus basses réalisées jusqu'à maintenant, moins d'un atome d'hélium peut exister à l'état gazeux dans un volume supérieur à celui de la Terre. Il ne saurait donc être question d'utiliser dans ce domaine de température des thermomètres à gaz, puisque s'y trouve réalisé effectivement le vide absolu. En physique, seule une méthode de thermodynamique basée sur le principe de Carnot-Clausius permet alors d'évaluer les températures absolues atteintes qui sont égales au quotient par la variation infiniment petite d'entropie, quantité qui exprime un accroissement du désordre, par la quantité infiniment petite de chaleur qui a provoqué cet accroissement de désordre à la température que l'on veut mesurer.
Eh bien, nous avons d'ailleurs parlé de l'entropie dans d'autres entretiens de cette série d'émissions. À la vérité, sous forme d'entropie négative et en la reliant à la notion d'information, nous étions loin à ce moment-là d'un désordre moléculaire. Mais enfin, nous cherchions quand même à mesurer une quantité d'ordre. Et vous venez, monsieur Lenné, déjà de citer l'expression zéro absolu en parlant d'un centième au-dessus du zéro absolu. Est-ce que cela va nous permettre d'expliquer ce que l'on appelle le zéro absolu et de donner par conséquent une idée des échelles de température? Je voudrais rappeler que le profane, bien entendu, tous ceux de nos auditeurs qui ne sont pas familiarisés avec ce chapitre de la physique, connaissent en tout cas des thermomètres d'appartement, des thermomètres médicaux, et sur lesquels le chiffre zéro se trouve en face d'un petit trait qui correspond à la température de la glace fondante ou à la température de congélation de l'eau. Ça, c'est le thermomètre, disons, ordinaire.
Cette échelle, dont le zéro correspond à la température de la glace fondante et dont le point 100 correspond à la température de la vapeur d'eau bouillante sous la pression atmosphérique, est l'échelle Celsius.
Pour le domaine des très basses températures qui nous intéresse aujourd'hui, il ne serait pas raisonnable, nous le verrons d'ailleurs plus loin, de rapporter les températures à la glace fondante, c'est-à-dire au zéro habituel. Il est normal de les rapporter à ce que nous appellerons le zéro absolu, lequel se trouve situé à environ 273,15 degrés au-dessus du zéro de nos thermomètres, et de définir ainsi le zéro Kelvin, et de définir les températures dans l'échelle Kelvin en les rapportant au zéro absolu et en les exprimant par degré K par opposition au degré Celsius de nos thermomètres qui sera le degré C.
Et comme vous le savez, c'est une question qui m'est toujours posée. Pourquoi on appelle ce zéro absolu ? Pourquoi on s'arrête à 273,15 au-dessous du zéro de la glace fondante ? Et pourquoi on ne pourrait pas descendre au-dessous ? Le grand public a l'idée qu'on refroidirait encore un peu plus et on aurait quelque chose de plus froid. Il faut qu'il y ait tout de même une explication à cela que M. Lainé va nous donner.
La raison est celle-ci, c'est que dans l'échelle Celsius, un abaissement de température de 1 degré serait tel qu'il provoquerait une diminution de la fraction 1 sur 273,15 de la pression à 0 degré d'une certaine masse de gaz parfait dont le volume resterait constant. En physique traditionnelle, basée sur la parfaite continuité de l'énergie, le zéro absolu correspondrait donc à l'immobilité parfaite des molécules.
Et il n'y a pas de vitesse inférieure à l'immobilité.
Il faut noter cependant que, d'après les théories quantiques modernes, il subsisterait au zéro absolu une certaine énergie cinétique résiduelle que les physiciens anglais appellent « zero point energy », dont il résulterait, entre autres conséquences, que l'hélium non soumis à une pression extérieure subsisterait à l'état liquide au zéro absolu.
Il semble utile d'ailleurs de dire rapidement un mot des échelles de température et surtout de la mesure de ces très basses températures. Le problème de la mesure des basses températures ne se pose pas, nous l'avons vu, chaque fois qu'on peut utiliser un gaz tel que l'hélium dont on mesurera la pression, mais aux très basses températures, les procédés ne jouant plus, il est indispensable de faire appel à d'autres techniques de mesure. Ces techniques sont assez nombreuses, mesure au moyen de couples thermoélectriques, mesure d'une tension de vapeur d'un liquide, et nous le verrons, aux très basses températures, les mesures faites au moyen de la désaimantation adiabatique, dont nous parlerons dans un instant.
Mais comment se dirige-t-on vers le zéro absolu ?
Cette marche vers le zéro absolu ne se fait pas de la même manière selon le niveau de température que l'on veut atteindre. En gros, suivant les domaines considérés et en partant de la température ambiante, on doit faire intervenir des transformations, dont une au moins est une transformation à température constante, au cours de laquelle le système qui évolue cède de la chaleur au milieu ambiant. Une deuxième transformation doit être une transformation adiabatique, comme son nom l'indique, ne doit être accompagné d'aucun échange de chaleur avec le milieu extérieur. C'est avec ce dernier procédé que l'on approche le plus près du zéro absolu, en désaimantant adiabatiquement des substances qui, aux températures les plus basses que l'on peut atteindre avec l'hélium liquide, se comportent encore comme des substances paramagnétiques, et en les désaimantant adiabatiquement, après leur avoir enlevé de la chaleur au cours d'une aimantation isotherme.
Eh bien, commençons, si vous le voulez, par le premier mode d'abaissement de la température, et qui est tout simplement l'évaporation. Il est évidemment situé encore très loin de ce zéro absolu dont nous voudrions faire la vedette de cet entretien. mais qui nous intéresse plus particulièrement, mais il constitue une première étape et aussi son principe sera, je crois, d'un grand enseignement. Alors je vous propose, sans nous y arrêter longtemps, de partir cependant des températures ambiantes. Je ne dirais pas de la température de cette salle, parce que c'est déjà une température de printemps ou d'été, mais d'une température qui ne sera pas très inférieure à celle de la glace fondante, qui sera très supérieure au zéro absolu vers lequel nous nous dirigeons. Partons donc, si vous voulez, de nos températures normales.
Eh bien, pour descendre plus bas, il convient de faire appel en premier lieu à un phénomène d'évaporation. Ce principe a d'ailleurs été utilisé pendant longtemps dans une machine qui s'appelait à l'époque la machine de Carré, qui faisait partie effectivement des collections de nos lycées, et dans laquelle, en évaporant brusquement l'eau d'une carafe, on arrivait à solidifier l'eau au sein de la carafe. Bien, c'est en fait le principe des appareils appelés actuellement réfrigérateurs, dans lesquels on utilise non pas de l'eau comme élément liquide, mais des liquides tels que l'ammoniac, le chlorure de méthyle, des fréons, qui permettent d'atteindre facilement moins 30 degrés dans les congélateurs du commerce. Et on peut d'ailleurs appliquer ce procédé à des liquides dont les températures d'évaporation sont nettement plus basses, à la condition, bien entendu, de disposer de ces liquides. Et là, les physiciens ont buté pendant un certain temps du fait que certains gaz ne se liquéfient pas par simple compression et qu'il a été nécessaire, pour les liquéfier, d'organiser une cascade de fluides, les premiers se vaporisant à des températures déjà assez basses et servant à refroidir le liquide de plus basse température de liquéfaction. De la sorte, on peut, au moyen de cascades de fluides comportant différents liquides sur lesquels je n'insiste pas, atteindre la liquéfaction de l'oxygène et de l'azote, c'est-à-dire des températures qui sont de l'ordre de moins 190 degrés centigrades Celsius. Autrement dit, pour parler le langage des physiciens, pour atteindre des températures de l'ordre de 80 degrés Kelvin.
Remarquons que quel que soit le mode de production du froid, quand on travaille en cycle fermé, n'est-ce pas, il faut, comme je le disais tout à l'heure, faire intervenir deux sources de chaleur, dont celle à la température la plus élevée doit recevoir de la chaleur de la part du système qui évolue. Ce qui permet de franchir l'intervalle de température qu'on ne peut franchir par liquéfaction, par simple compression, de gaz comme l'hydrogène ou l'hélium, on peut le franchir en mettant en jeu des phénomènes de détente adiabatique de gaz comprimé, soit avec travail extérieur, soit sans travail extérieur.
Nous avons déjà, de cette manière-là, en atteignant les quelques 90 degrés absolus, ou si vous voulez 183 au-dessous du zéro de la glace fondante, les températures de l'oxygène liquide et de l'azote liquide, nous avons tout de même atteint des températures qui sont basses, basses du point de vue de la vie humaine. Elles ne sont pas encore les plus basses du point de vue des techniques dont nous parlons. Et est-ce que l'on continue, monsieur Lenné, à employer le même procédé, alors pour descendre précisément au-dessous de ces températures de, disons, je ne sais pas si je choisis bien mon repère, de, disons, environ 90 degrés Kelvin ou 180 et quelques degrés au-dessous de notre zéro ordinaire.
Pour abaisser la température au-delà de cette limite, il est nécessaire de liquéfier l'hydrogène et l'hélium, et cette fois en faisant intervenir des phénomènes complémentaires que sont la détente adiabatique, avec ou sans travail extérieur. Dans le cas de la liquéfaction de l'hydrogène, on peut opérer à l'aide d'une machine de Linde dans laquelle le gaz comprimé envoyé dans le liquéfacteur est au préalable refroidi à la température de l'azote liquide. Dans le cas de l'hélium, on utilise encore une machine de Linde. Mais avant d'envoyer l'hélium comprimé dans cette machine de Linde, on doit préalablement le refroidir successivement avec de l'azote et de l'hydrogène liquide.
Ces températures auxquelles vous descendez compris, si je comprends bien, entre 70 degrés Kelvin et 4 degrés Kelvin. Alors, au-dessous de 4 degrés Kelvin, ce seront, si je comprends bien, les très basses températures.
Oui, ce sont déjà des très basses températures, mais on peut descendre encore nettement plus bas et liquéfier non seulement l'hélium 4, mais son isotope, l'hélium 3.
Est-ce qu'on peut arriver non seulement à liquéfier l'hélium, mais à le solidifier, à le congeler, à obtenir de l'hélium solide?
On peut obtenir de l'hélium solide, mais pas en abaissant sa température. Comme je l'ai indiqué il y a un instant, à la température du zéro absolu, l'hélium resterait à l'état liquide tant qu'il ne serait pas soumis à une pression extérieure. Pour solidifier l'hélium, il faut obligatoirement le soumettre à une certaine pression.
Nous voyons déjà en passant qu'il apparaît, pour ce gaz qui est l'hélium, une première anomalie, et nous en rencontrerons d'autres beaucoup plus importantes dans la suite.
Nous avons liquéfié et même, moyennant le recours à des compressions, et même solidifié tous les corps simples, et cependant, nous n'avons pas encore eu recours, cela me paraît assez frappant, au troisième procédé que vous nommiez il y a un instant, le meilleur, je veux dire, celui qui descend encore le plus bas, c'est celui que vous annonciez tout à l'heure.
Il s'agit en fait de la désaimantation adiabatique, qui consiste à aimanter un corps à température constante et à le désaimanter brusquement. Cette désaimantation est accompagnée d'un abaissement de température qui peut être fait en cascade, progressivement, et qui va nous faire descendre ainsi en dessous de 1 degré absolu dans une région que nous pouvons qualifier dès maintenant de région des températures extrêmement basses.
La méthode de désaimantation adiabatique, qui a été d'abord appliquée à des sels tels que l'alun ferriammoniacal, l'alun de chrome, qui renferme dans chacune des molécules une centaine d'atomes, dont quelques-uns seulement sont doués d'un moment magnétique. Ces substances se comportent comme des substances tout à fait paramagnétiques aux températures les plus basses de l'ordre de 1 degré absolu que l'on obtient avec l'hélium liquide, et désaimantées adiabatiquement, comme il vient d'être expliqué par le professeur Ribot, permettent d'atteindre des températures de l'ordre du millième de degré absolu. Ce millième de degré absolu, bien que apparaissant comme une température extrêmement basse, mais cependant infiniment loin encore du zéro absolu, peut être dépassé également par une méthode de désaimantation adiabatique, mais une méthode qui, partant de ces températures de l'ordre du millième de degré absolu obtenues comme il vient d'être indiqué, mettent en jeu le paramagnétisme nucléaire. Les moments magnétiques des noyaux atomiques sont en effet considérablement plus petits que les moments d'origine électronique que présentent les atomes paramagnétiques que l'on rencontre dans les sels, tels que ceux qui viennent d'être cités.
Et quel est le record du monde du froid que l'on a actuellement atteint?
Ce record a été atteint en fait au laboratoire d'Oxford que dirige actuellement le docteur Curti, qui d'ailleurs fera une conférence sur le sujet dans le cadre de l'exposition du froid. Cette température la plus basse se chiffre au voisinage de quelques millionièmes de degrés Kelvin.
C'est vraiment très au voisinage du zéro absolu. Et est-ce que l'on peut espérer descendre encore plus bas que le record de Curti? Et si oui, comment pourrait-on l'imaginer? Est-ce que ma question a encore un sens, monsieur Lenné?
Pour l'instant, il n'a pas été imaginé de procédés nouveaux permettant d'abaisser les températures au-delà de celles que l'on peut atteindre par les méthodes de désaimantation adiabatique nucléaire. En accroissant l'intensité des champs magnétiques mis en jeu, voilà, et peut-être en faisant appel à des substances possédant des moments magnétiques nucléaires plus grands que ceux du cuivre, on pourra sans doute descendre encore à des températures plus basses.
De toute façon, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait lieu de prétendre atteindre exactement le zéro absolu, qui est une limite actuellement infranchissable. Il faut songer, lorsqu'on parle de ces problèmes des très basses températures, que la difficulté est aussi grande pour passer de 1 millième de degré Kelvin à 1 millionième de degré Kelvin que pour passer de nos températures habituelles à celles de l'hélium liquide. C'est en réalité le rapport des températures absolues qui intervient, et ceci conduit, pour figurer ce phénomène, cette difficulté, de représenter les températures non pas en échelle linéaire comme on a l'habitude de le faire sur nos thermomètres courants, mais en échelle logarithmique. Et à l'entrée de la première section de l'exposition, nous avons tenu, M. Lenné et moi, à montrer comparativement les deux échelles, l'échelle linéaire habituelle et l'échelle logarithmique qui, aux très basses températures, est infiniment plus suggestive.
C'est-à-dire, en somme, que pour une échelle logarithmique, eh bien, le zéro se situe un petit peu comme un infini, comme dans les logarithmes, précisément.
Comme dans les logarithmes.
Et aux très basses températures. Alors maintenant, tenons-nous le plus près possible du zéro absolu, tenons-nous en tout cas aux températures extrêmement basses que l'on a atteintes, la matière change complètement de propriété. C'est bien connu, mais ce n'est pas toujours bien compris.
Le plus curieux dans ce domaine est d'ailleurs incontestablement l'hélium liquide, qui a soulevé pour les physiciens de grands problèmes d'interprétation. Jusqu'à la température de 2,2 degrés environ, Kelvin, l'hélium liquide se comporte comme les liquides habituels. Mais dès qu'il franchit cette température de 2,2 degrés, c'est-à-dire le point qu'on a appelé le point lambda,
oui,
les propriétés changent extrêmement brusquement et apparaissent des phénomènes nouveaux qui sont très curieux et dont l'explication n'est pas encore donnée totalement par les physiciens.
C'est par exemple la superfluidité dont la conséquence est le fait que, au-dessous de la température du point lambda, l'hélium liquide grimpe le long des parois et forme le long de ces parois un film superfluide en raison duquel des récipients non en communication directe l'un avec l'autre peuvent se comporter comme des vases communicants.
Un vase peut se vider en quelque sorte quand on met de l'hélium superfluide dedans.
N'est-ce pas? Si par exemple, dans un bain d'hélium liquide à une température inférieure à 2,19 degrés absolus, on immerge un tube à essai vide sans que ce tube à essai communique d'une façon quelconque avec l'hélium liquide à l'extérieur, on constate que ce tube se remplit d'hélium liquide jusqu'au même niveau que celui du liquide qui se trouve à l'extérieur. Et si on soulève ce tube à essai, on constate qu'il se vide spontanément et on voit l'hélium liquide former des gouttes à la partie inférieure de ce tube à essai, ceci jusqu'à ce que, si le tube est encore resté immergé partiellement dans l'hélium liquide, jusqu'à ce que les niveaux s'égalisent.
Un autre phénomène extrêmement curieux et frappant est celui de la superconductivité thermique. L'hélium liquide jusqu'au point lambda se comporte comme nos liquides habituels, alors qu'au-dessous du point lambda, sa conductibilité calorifique, sa conductibilité thermique devient extrêmement grande, de l'ordre de 100 fois, 1000 fois plus grande que celle de métaux tels que le cuivre à la même température.
Et puis alors il y a la conductibilité électrique et non pas thermique des métaux et qui change elle aussi d'une manière spectaculaire.
Oui, là aussi, ça a été une surprise pour tous les physiciens de constater pour la première fois que certains métaux possédaient aux très basses températures la superconductivité, supraconductivité électrique, qui se traduit de la façon suivante. Alors qu'aux températures ordinaires, lorsqu'on fait passer un courant électrique dans un conducteur métallique, ce conducteur s'échauffe du fait de la résistance offerte à la circulation des électrons, aux très basses températures, cette résistance électrique disparaît complètement et on arrive ainsi, dans un tore métallique, à provoquer une circulation continue d'un courant électrique qui ne s'éteint pas. Et une très belle expérience, dite expérience de l'aimant flottant, basée sur ce phénomène, est visible au Palais de la Découverte, dans la section numéro 1.
Pendant longtemps, on aurait pu croire que ce phénomène de supraconductibilité électrique ne serait pas susceptible de recevoir des applications pratiques.
Effectivement.
Parce que lorsque un métal à l'état supraconducteur se trouve placé dans un champ magnétique supérieur à une certaine valeur critique, caractéristique du métal, la supraconductibilité disparaît et le métal retrouve sa résistance électrique. Les premiers supraconducteurs qui ont été découverts présentaient des champs magnétiques critiques de l'ordre de quelques centaines et au maximum de quelques milliers d'ersteds. Maintenant, on a découvert des alliages supraconducteurs dont les champs magnétiques critiques sont de l'ordre même d'une centaine de milliers d'ersteds.
Et alors là, c'est applicable.
Ce qui fait que, dès maintenant, on peut imaginer l'application de la supraconductivité à la production de champs magnétiques très intenses, cette production ne mettant en jeu que des énergies très faibles.
Pour terminer, est-ce que, en un mot, on pourrait donner une idée de ce que l'on imagine de l'état de la matière si on atteignait ce zéro absolu que nous n'atteindrons pas?
Eh bien, je dois dire que là, les physiciens ne sont pas encore tout à fait d'accord.
Mais oui.
Sur ce zéro absolu. Tout ce que l'on peut dire, et il s'agit là d'un fait déjà indiqué par Nernst il y a bien longtemps, c'est qu'à ce zéro absolu, l'entropie sera nulle.
C'est le troisième principe
de la thermodynamique. Le troisième principe de la thermodynamique. Le mot d'entropie signifiant, nous l'avons vu, désordre. Eh bien, pratiquement, il n'y aura plus de désordre au zéro absolu. Les spins des noyaux, des atomes, seront en fait dirigés tous dans les mêmes directions et sans qu'il y ait cette agitation désordonnée dont nous avons parlé à propos des molécules. Quant à l'énergie, M. Lenné l'a dit déjà tout à l'heure, elle n'est pas complètement disparue, elle reste faible sans qu'on puisse dire ce qu'elle restera à ce zéro absolu. Et sur ce point, les avis diffèrent encore.
En tout cas, il est toujours extrêmement intéressant, en matière de recherche scientifique, de battre des records techniques, même en écartant le côté sensationnel de performances qui se présentent un peu comme des exploits sportifs. De telles réussites témoignent de la qualité de nos moyens d'investigation, dont ils testent et dont ils mesurent la puissance de pénétration dans le réel. Mais ces progrès, ces records, sont bien plus importants lorsqu'ils se situent non plus seulement aux extrémités actuelles de nos techniques d'investigation scientifique, mais encore lorsqu'ils approchent de frontières que la nature elle-même ne saurait franchir. Lorsqu'ils atteignent ces limites, comme le vide absolu, comme la vitesse de la lumière, comme le quantum d'action, comme le zéro absolu dont nous avons parlé, et déjà, quand ils s'en approchent d'assez près, les choses et les phénomènes sont souvent les objets de mutations extraordinaires où se révèlent quelques-uns des plus grands secrets de l'univers. La science est toujours passionnante, elle ne l'est jamais plus que lorsqu'elle est en marche vers les extrémités de la réalité.
Dans le cadre de l'émission « La science en marche », François Le Lyonnais vous a présenté « La marche vers le zéro absolu » avec Gustave Ribaud et Paul Lenné.
C'était une émission diffusée pour la première fois le 5 juin 1962 sur France 3 Nationale.